Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quilino.
Les grandes gueules du sport avec Pierre Rabadan, avec Marc Madiot, Pascal Duprat et Sarah Pilkowski. Le soleil est là à Paris, porte d'Auteuil, pour le début de Roland Garros. Les joueurs sont en train d'arriver sur la terre battue pour les premiers matchs de la quinzaine. Vous retrouvez les deux premières heures des grandes gueules du sport en podcast sur toutes les plateformes. Évidemment, Roland Garros, vous allez suivre ça pendant 15 jours sur RMC, sur notre radio digitale 100% terre battue et en podcast aussi avec cours numéro 1. Tous les jours, dans un instant, les GG sur le buzzer. On va parler de Yannick Sinner, justement. Est-ce qu'il est sous pression sans Alcaraz, alors qu'il est l'archi-favori? En fin d'émission, participez au jeu du sport avec vos GG. Ce week-end, gagnez un séjour dans un des 400 campings Homer, des campings 4 et 5 étoiles, situés en France et en Europe. Vous voyagez selon vos envies, de 2 nuits à 1 semaine, jusqu'à 6 personnes sur l'année à venir pour remporter votre séjour Homer. Appelez le 32-16 touche 4 ou envoyez sport au 7-32-16. Sport au 7-32-16. Anthony Reich est à Roland-Garros, l'une de nos voix de la quinzaine. Salut Anto.
Salut Georges, salut les grandes gueules.
Ça y est, c'est parti.
Ouais, c'est parti, ça y est. Les premiers matchs vont être lancés dans quelques minutes sur le cours Suzanne Lenglen où je me trouve. Karen Khachanov, le russe, va défier un français, Arthur Géa. Il y aura beaucoup de français sur les cours aujourd'hui. Peut-être la belle histoire de Luka Pavlovic, qui est le jeune français d'origine serbe, qui est sorti des qualifications et qui va jouer son tout premier tableau final. On attendra également Novak Djokovic en Night Session sur le cours Philippe Châtrier pour inaugurer ses Night Sessions de cette édition 2026. Il jouera Giovanni, Mpeci, Péricard, déjà énormément de monde à Roland-Garros et puis surtout, le soleil est au rendez-vous.
Formidable, la chaleur aussi, hein, ça va avoir une vraie incidence, on attend plus de 30 degrés notamment cette semaine. Ça fait un truc, hein, ça, à chaque fois quand ça commence, hein.
Ouais,
on ne s'habitue pas. Hein.
Non, ouais. Et puis il y a ces couleurs et quand il fait beau en plus, c'est vraiment l'ambiance Roland-Garros et on ressent toujours, enfin en tout cas moi quand les matchs commencent, je ressens toujours le petit frisson quand tu pénètres sur le court, quoi, surtout quand tu es français.
Ouais, et nous tous et toutes, hein, vous les auditeurs, auditrices, fans de sport, là, on sait que quand Roland Garros commence, c'est le début d'une autoroute sportive qui va ensuite nous emmener à la Coupe du Monde de football, au Tour de France cet été. Il y a le Grand Prix de Monaco au milieu, il y aura les Championnats d'Europe de natation également à Saint-Denis avec Léon Marchand. Vous allez tout vivre sur RMC. Vous le savez, pour toutes ces compétitions, il y aura la finale du Top 14 aussi, s'il vous plaît. Les joueurs sont prêts, j'ai l'impression. Allez, tout de suite, on ouvre la porte du vestiaire.
RMC, le vestiaire des GG.
Alors, les GG, cette semaine, évidemment, ce qui nous a interpellés, on en a parlé hier, c'est les revendications des joueurs de tennis et des joueuses, des stars du circuit à Roland-Garros. On avait parlé d'un possible boycott il y a 2 semaines pour lutter contre la répartition des revenus des tournois du Grand Chelem. Hein. On rappelle, certains joueurs et joueuses veulent que la répartition soit un peu plus en faveur des stars du circuit notamment et des joueurs en général. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tout le temps des moments comme ça avec des révoltes, des petites rébellions, des grognes et des joueurs qui veulent défendre leurs droits ou en tout cas porter des revendications. Les GG, à travers vos expériences, je voudrais justement qu'on parle de ça aujourd'hui, de ces moments où les sportifs vont défendre des droits, lèvent un peu le poing. Finalement, c'est quelque chose qui est quand même assez récurrent dans le sport, mais qu'on ne vit pas toujours de l'intérieur. Nous, journalistes, on raconte ça un peu de l'extérieur. Marc, dans le cyclisme, ça existe, c'est déjà arrivé.
Ah oui.
Et ça s'organise quand même dans le vélo. Comment tu as vécu ça dans ta carrière?
Bah moi, j'ai plusieurs exemples. Le premier, c'est le premier tour que remporte Bernard Hinault en 78, où les coureurs ont fait grève juste avant la ligne d'arrivée pour protester contre les demi et tiers d'étapes, parce qu'on était même arrivé à proposer trois tiers d'étapes dans la journée, ou des demi-étapes. Et les journées étaient interminables, c'était les forçats de la route, et les coureurs s'étaient unis, avaient fait grève. Et ils ont gagné le match contre les organisateurs.
Comment ils avaient fait grève?
Ils ont mis pied à terre. Il n'y a pas eu de course. Ils ont mis pied à terre à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Ils ont passé la ligne d'arrivée en marchant. Ben, ils ont gagné.
Et toi, dans ta carrière?
Et moi, j'ai connu une autre un peu plus tard, en 91. L'UCI voulait nous mettre des casques sur la tête. À l'époque, c'était des casseroles. Et on a dit non. Ils nous ont imposé. on a fait une première grève à Paris-Nice où on a commencé à discuter et on arrive au Tour de France, mettez le casque. Non, on ne met pas le casque. On a commencé à retirer le casque quand il a fait chaud. Et il y a un coureur qui avait été viré du Tour parce qu'il n'avait pas pris l'avion avec l'organisation du Tour pour se rendre dans les Pyrénées. C'était à Pau, je crois, si ma mémoire. Pau ou Lourdes, mais Pau, je crois. Et là, on s'est retrouvés face aux organisateurs. On a dit non, on ne part pas. Vous nous enlevez les amendes, sinon on ne prend pas le départ. Et il y a eu une négociation, on a fini par prendre le départ, mais les amendes ont été maintenues. Et Verbruggen est arrivé sur le Tour.
Le patron de l'UCI de l'époque
a dit, oui, mais non, vous comprenez, machin, et tout. Et il me dit, on peut en discuter et tout, mais je laisse les amendes. J'ai dit, si vous laissez les amendes, moi, je vous fais une grève au championnat du monde.
C'est toi qui as dit ça?
Oui.
Toi, t'es allé voir le président de l'UCI?
Bien sûr.
Ah, au nom des coureurs.
Au nom des coureurs, mais j'étais tranquille, les coureurs étaient avec moi, parce qu'on avait tous des amendes.
Mais comment ça s'organise, ça? Parce que c'est parce que là, on va en tennis, c'est difficile à organiser.
Non, mais on parlait entre nous. C'est fort, parce que pour un sport individuel à arriver à rassembler, mais c'est fort. Le sport, quelle que soit l'activité,
c'est nous qui. Enfin, je dis nous, parce que je me considère encore comme un sportif. Quelque part, ce sont les acteurs et c'est. Le sportif qui a le vrai pouvoir, il est là. Alors, je sais que ça va pas plaire dans certaines sphères que je dise cela, mais c'est la réalité. Si les sportifs se disent non et tapent du poing sur la table, ils auront toujours gagné.
Oui.
Toujours.
Effectivement, à condition.
Pour peu qu'ils restent unis et fermes sur leur
place. Exactement. C'est pas pour peu.
Alors après, les instances s'arrangent toujours pour mettre le petit grain de sable quelque part, pour mettre les gens en guerre les uns contre les autres, ou entretenir des rivalités. Mais si demain, le monde du sport, quelle que soit l'activité sportive, dit non, c'est les sportifs qui gagnent.
Pierre, dans ton expérience,
parce que ça ou Marc, je disais dans les sports individuels, mais je trouve que dans les sports collectifs c'est parfois encore plus dur, et notamment avec le sport co-professionnel.
Bien sûr.
Parce que
de quoi, de se rassembler?
Ben oui, d'avoir des intérêts communs entre les clubs. Au sein des clubs, t'as des joueurs qui sont sous contrat, expérimentés, voilà, et qui sont pas en risque, et d'autres qui sont dans d'autres situations. Donc la mobilisation générale, elle est relativement dure, en tout cas moi, celle que j'ai connue. Mais moi, il y a eu un épisode, je suis très mauvais sur les dates, mais on va dire autour de l'année 2004, je crois que c'était 2003-2004, sur la convention collective du rugby, qui nous convenait pas et qu'on essayait de négocier avec la Ligue à l'époque. Et la négociation n'aboutissait pas, et donc il y a eu une menace de grève qui s'est manifestée de la manière suivante, c'est-à-dire qu'on a dit, ben, on va jouer les matchs, par contre, on décale le coup d'envoi. C'est-à-dire qu'à l'heure d'entrée des joueurs sur le terrain, on rentre pas. Et tant que vous dites pas oui, on rentre pas. Et donc on a tenu, je crois, 8 minutes. Et au bout de 8 minutes, la Ligue en lien avec le diffuseur
parce que là, le diffuseur surtout n'est pas content. Ouais. Mais c'est dur à mettre en place, Pierre.
C'est hyper dur.
Toi, tu faisais partie des représentants des joueurs.
Moi, j'étais beaucoup impliqué dans le syndicat des joueurs de rugby qui s'est créé dans ces quelques années avant. Je crois que c'était en 2000 ou 99.
Et puis en plus, tu étais capitaine du Stade français aussi. Donc tu avais ce rôle-là aussi
l'équipe. Mais la mobilisation, elle est complexe parce que, je te dis, c'est pas les mêmes clubs qui sont plus rivaux, mais comme dans tout ça, dans tous les sports, et d'arriver à mobiliser tout le monde en même temps pour quelque chose qui doit être légitime pour le plus grand nombre, c'est pas simple, mais bon, voilà, je suis d'accord avec Marc.
Mais t'as dû croiser des joueurs qui voulaient pas le faire.
Mais plein, tout le temps.
Qui voulaient pas se mettre en difficulté.
Ils osent pas.
Il y a des appréhensions.
Ils sont d'accord sur le principe, mais le fait de mener une action les engage eux personnellement, et là, c'est compliqué en fait.
Ça dépend dans ton club de ta relation. Enfin, je veux dire, il y avait des managers dans les clubs. Enfin, je pense à Toulouse notamment, parce que Guy Noves, par exemple, à l'époque, était très influent sur le rugby français. Du coup, il y avait des joueurs sur des problématiques qui étaient concernés, mais ils osaient pas. Il y a eu d'autres clubs aussi, parce qu'il fallait un peu finalement se confronter à la direction du club. Et donc, ils étaient d'accord sur le fond, mais sur la forme, ils disaient pas grand-chose.
Alors, moi, j'ai pas connu ça, parce que quand je jouais, le tennis féminin était certes le sport féminin le plus diffusé dans le monde, mais les écarts entre le prize money masculin et féminin étaient colossaux. Déjà, quand je jouais, non, le prize money n'était pas égal sur les tournois du Grand Chelem. Ça a juste une dizaine d'années. Donc, on se contentait finalement de ce qu'on nous donnait. En revanche, dans le tennis, il faut savoir que l'ATP, l'Association du Tennis Professionnel, et la WTA, initialement, ça a été initié par les joueurs de tennis en 72.
C'est pour ça qu'on dit l'association.
Ça a été une grande force.
Exactement. Mais c'était le rassemblement des joueurs qui, en fait, voulaient être ensemble pour défendre leurs intérêts face au tournoi qui était en train de s'organiser. Aujourd'hui, l'ATP, elle représente autant les tournois et un peu les joueurs.
Un
et donc,
peu.
Un peu. Et c'est d'ailleurs pour ça que Djokovic a voulu lancer un syndicat des joueurs. C'était en 2019. Ça s'appelait le Professional Tennis Player Association. Et l'idée, c'était vraiment un syndicat que pour les joueurs. Et l'idée, ce n'était pas de défendre les intérêts des tout meilleurs, puisque les tout meilleurs, j'ai envie de dire, ils n'ont pas de problème. Mais vous savez pourquoi elle a eu du mal à prendre? C'est que Djokovic était à l'initiative, mais ni Nadal ni Federer ne voulaient y participer,
en
fait.
Mais alors pourquoi c'est si difficile dans le tennis, toi qui disais?
Alors c'est difficile parce que celui qui est numéro un mondial, le fait de boycotter un tournoi et de ne pas prendre son 500 000 dollars ou son 100 000 dollars sur quelque chose. Mais pour un joueur qui est 90, puis lui c'est vital en fait.
Tu vois quoi, les intérêts sont trop différents.
Ils sont trop différents. Et en fait, la revendication aujourd'hui qu'on voit des tout meilleurs, c'est pour qu'en fait, finalement, tout le monde puisse vivre correctement du tennis. Alizé et surtout Marion le disait hier, j'étais d'accord avec elle. En fait, l'idée, c'est pas de gagner plus d'argent, c'est qu'en fait, quand tu es entre 90 et 200.
Il y a une meilleure répartition.
Bah, en fait, tu touches moins d'argent, mais donc tu peux moins investir. Parce que c'est un sport individuel où, on répète, tu choisis ton staff. Tu es ton chef d'entreprise, donc tu paies tes déplacements. Mmh. Donc en fait, si t'as moins d'argent, t'as donc moins d'accompagnement, donc il est difficile aussi de rattraper les meilleurs. Et donc en fait, elle est là le vase des communicants. Mais c'est vrai que dans le tennis rassemblé, et puis on n'est pas 50, hein, il y a 1000 joueurs de tennis. Alors tout le monde, je veux dire le 900e, on peut peut-être pas considérer qu'il est joueur de tennis professionnel dans sa discipline. Alors,
on a vu par exemple 300... sur la tentative de boycott entre guillemets, tout le monde n'était pas réuni. Hein. Djokovic a soutenu mais mollement on va dire.
Mais parce
on a
que
vu
lui,
certains
lui
joueurs qui n'étaient même pas impliqués. Loïs Boisson a dit bon je suis de loin.
Comment tu veux qu'elle soit impliquée? Ça fait à peine un an qu'elle est sur le circuit professionnel. C'est ce qu'on disait en termes d'individualité. Chacun ses intérêts et dans le tennis rassembler. Que c'est difficile. Il y a des règles qui changent pas. Faut pas se mentir, parce que Federer il voulait pas que ça change. Hein.
Oui, oui.
Donc la voix des meilleurs, elle a une voix de blocage.
Mais il faut assumer en plus d'être un leader de représentation, hein, syndical. Effectivement, on est dans le vestiaire des grandes gueules du sport. Quand un sportif porte des revendications, tiens Pascal, on t'a pas entendu encore là-dessus. Dans le foot, vous êtes organisé quand même.
Oui, il y a l'UNFP, l'Union nationale des footballeurs professionnels, donc le syndicat qui nous représente, qui représente les joueurs, l'UNECATEF qui représente les entraîneurs, et puis si on va mondialement, la FIF Pro qui représente...
Vous avez une bonne structuration.
Depuis de nombreuses années.
Mais Pascal, il y a une bonne structuration, mais j'ai aussi en tête, tiens, pour aller dans l'actualité, récemment, il y a eu beaucoup de questions sur les calendriers fous dans le foot actuellement, avec la Ligue des Champions qui a plus de matchs, avec la Coupe du Monde des clubs l'été dernier. La FIFA a imposé son truc, et les joueurs, même si certains n'étaient pas d'accord... même pas forcément plus organisé.
Mais la FIF Pro mène des débats avec la FIFA de manière à ce que ça change. Aujourd'hui, il est question de limiter le nombre de matchs, d'avoir un quota de matchs qu'on ne peut pas dépasser dans une saison. À force, c'était mieux d'être organisé pour revendiquer. Fatalement, comme le disait Marc tout à l'heure, la force que représentent les joueurs professionnels mondiaux va faire que à un moment donné, la FIFA, elle va s'infléchir. Quand on parle des émoluments des femmes et des hommes, on veut l'équilibre des salaires. Ben, on va y venir, on y vient et on y viendra, et c'est normal. Donc l'organisation, en fait, le fait d'être organisé, donne une meilleure couverture et une meilleure lisibilité pour les joueurs et leur voix va compter immanquablement.
Ouais, non, mais parfois il y a un peu ce sentiment aussi que les instances sont trop fortes pour les joueurs, parce que là je parlais de la FIFA effectivement, mais ça peut être le cas aussi des grands chelems actuellement. On voit très bien, les joueurs au final ne sont pas vraiment allés au bout de l'histoire. Hein. Le mot boycott a été murmuré à Rome il y a deux semaines. Dans d'autres sports, c'est la même chose. C'est plus difficile.
Ce qui est difficile, c'est que s'il y en a qui boycottent Roland pour rester sur le tennis, c'est leur vitrine de l'année. Et donc, eux, bien sûr, ils voudraient que les revenus dédiés aux joueurs, ils passent à 22%, parce que eux, ils en seraient bénéficiaires.
Que va dire ton sponsor si tu ne vas pas à Roland-Garros?
Exactement. T'as les sponsors, et puis t'as ta performance, t'as envie d'y briller, c'est chez toi pour les Français. Et donc, en fait, c'est là où c'est difficile de réunir tout le monde. Mais après, si tu pars, si t'es pas uni ou si tu représentes pas une majorité, ça fonctionne pas.
C'est la même chose dans le vélo, Marc. Vous représentez en plus des équipes de sponsors. Oui, vous défendez pas que vos propres intérêts. C'est difficile. En fait, c'est ça qu'on veut aussi évoquer là. Après, dans le sportif et la revendication, c'est difficile de prendre la parole.
Le problème, c'est que les instances sont en général très politiques. Quand on arrive au sommet des instances internationales, c'est qu'on est un politique. Et le problème des sportifs, en globalité, quelle que soit l'activité sportive, c'est qu'on n'est pas rompu et organisé à faire de la politique. Et on est dans l'instantané, on est dans la prise d'opposition par rapport à des événements ponctuels. Donc c'est difficile de se réunir. Mais nous, dans le cyclisme, il y a des syndicats. Il y a le syndicat international, il y a le syndicat national aussi, qui a toute sa place et qui œuvre et travaille. Alors aujourd'hui, ça se fait plutôt dans une bonne concertation avec les instances, mais moi je reste persuadé que le pouvoir des sportifs à travers les syndicats pourrait être beaucoup plus conséquent et plus important.
Ça dépend de ce que représente ton syndicat aussi.
France, par exemple, c'est très simple, tous les coureurs sont syndiqués. Ouais. Automatiquement.
Ok. Donc là, au foot aussi, hein, la plupart, hein, c'est la grande majorité des joueurs.
Nous, on a eu cette discussion au rugby, à savoir est-ce que quand t'es pro, tu dois cotiser au syndicat.
Aujourd'hui, en France, grâce à l'action des syndicats, grâce à l'action du syndicat, grâce à l'action de la Ligue, aujourd'hui, toutes les personnes qui travaillent dans le secteur professionnel ont un contrat de travail. Que ce soit le petit mécanicien d'une équipe continentale ou le coureur d'une équipe Pro Tour ou World Tour, tout le monde a un contrat de travail. Et c'est ça, c'est la lutte. C'est, je vais même pas parler de lutte, je vais parler d'osmose de la gestion du sport. Et là, je vais me faire le défenseur de la Ligue nationale du cyclisme, dont j'ai été le président. Pendant toutes ces années, on a œuvré pour avoir une osmose entre nos instances et nos coureurs. Et on a un modèle qui fonctionne. Pourquoi ? Parce qu'on se respecte les uns les autres et parce qu'on tient compte les uns des autres. Et on sait surtout qu'on a besoin les uns des autres.
On est dans le vestiaire des grandes gueules du sport, le sportif et les revendications. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, notamment parce qu'on a des managers ou même des chefs d'entreprise, parce que quand on est joueur de tennis, finalement, on est chef d'entreprise aussi, parce qu'on gère son entraîneur, on paye son entraîneur. T'as été capitaine de ton équipe, Pierre, donc parfois t'allais voir le manager aussi, peut-être au nom de l'équipe pour demander des choses. Pascal, entraîneur des équipe, quand tu vois des joueurs venir te voir avec des revendications, comment on l'accepte? Parce qu'on peut le prendre aussi comme une autorité un peu remise en question, Pascal.
Aujourd'hui, hein, je parle manager aujourd'hui, c'est donner la parole et écouter les joueurs que tu encadres. On n'est plus dans le management qu'on a connu dans les années 80. Où il y avait un boss et puis les autres, les joueurs, on la fermait. Là aujourd'hui, bon voilà, il faut écouter les revendications. On n'est pas obligé de souscrire à toutes celles qui sont demandées.
T'as eu des revendications?
Ça m'arrive souvent, des joueurs qui se plaignent de la cadence des séances d'entraînement, qui pensent que on double trop les séances par jour. Bon, voilà. Après, c'est en concertation avec le staff, avec les représentants des joueurs. Quelquefois, il nous arrive, nous entraîneurs, d'annuler une séance d'entraînement ou de l'alléger parce que les joueurs en éprouvaient le besoin.
Toi, t'es prêt à faire des compromis comme coach, en tout cas.
Oui, mais ça n'altère pas ton leadership, le fait de faire des compromis. Voilà. Après, quelquefois, je sais pas, des demandes comme est-ce qu'on pourrait pas partir la veille plutôt que le jour même. Ça arrive quelquefois que les joueurs réclament ce genre de doléances pour les matchs à l'extérieur ou l'inverse.
Pierre, t'allais demander des choses au coach?
Oui, bien sûr. Ça, mais je pense que quand t'es capitaine, et pas que d'ailleurs, je pense qu'un bon manager, il a évidemment une relation privilégiée avec son capitaine qui représente les joueurs dans les sports co, mais aussi d'autres relais dans l'équipe. C'est-à-dire quand t'as un groupe de 40, pas fonctionner juste le manager et le représentant qui est le capitaine.
Ouais, souvent c'est 5-6 joueurs.
Il te faut des relais. Ouais. Il faut que quand t'es manager, tu prends la température, tu vois ce qui convient, ce qui convient pas. Tu t'adaptes en permanence.
Pascal, toi, tu voyais en permanence des joueurs même seul à seul.
Bien sûr.
Oui, c'est mon management. Mon management, c'est un quart d'heure tous les mois avec tous les joueurs, tous les membres.
Ça te permet de savoir où tu vas.
Du club. Je prends la température, le pouls, on me dit des choses.
Tu dis, Marc,
les délégués du personnel chez nous dans nos équipes cyclistes. tennis, on a des délégués du personnel qui sont des personnels d'encadrement et aussi des coureurs.
Pour représenter les coureurs.
Bien sûr.
Non, mais c'est bien aussi que nos auditeurs et auditrices comprennent comment ça marche.
On fonctionne comme une
équipe, c'est comme une entreprise.
Nous, on est comme une entreprise. On est 120
aussi,
personnes.
Tous les clubs ont des délégués personnels. Ouais.
Chacun vient s'exprimer. On évoque les situations.
T'as un coureur qui vient de voir, il dit Marc, j'ai pas eu mes tickets resto. Oh, c'est quoi l'histoire?
Et peut-être qu'il va me dire
le déplacement
à tel ou tel endroit a été mal organisé. Le stage était pourri. Pourquoi? Comment? Qu'est-ce qu'on peut faire pour modifier les choses et s'améliorer? Mais ça fait partie de la vie d'une équipe sportive qui est aussi une entreprise.
Ça va dans le sens de constructif.
Qui voilà. A le fonctionnement d'une entreprise. Exactement. Pour revenir au tennis, là où peut-être le rassemblement des joueurs a fonctionné, c'est quand il y a eu le cas Naomi Osaka et de son burn-out devant les médias.
Oui, bien sûr.
Qui s'est passé à Roland-Garros. Là, il y a eu une prise de conscience de l'ATP, de la WTA, des grands chelems sur le surmenage et le fait qu'on demandait toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aux joueurs.
Et souviens-toi, l'Open d'Australie aussi, les caméras qui étaient omniprésentes, notamment les joueuses qui disaient mais on peut pas péter un plomb tranquillement sans qu'on ait besoin d'être filmé.
Il n'y a plus un endroit où à part sous la douche et encore, où on peut être tranquille là. Il y a eu une écoute, mais parce qu'en fait, ça touchait un système d'organisation qui est très, très facile à changer. C'était finalement des petites règles à ajuster. Et ils ont eu peur finalement, parce que certains joueurs ne donnent plus autant de temps après les matchs. Et là, ça devient problématique parce pour les diffuseurs.
Mais parce qu'en fait, c'est une question d'argent. En fait, c'est quand ça devient vraiment une question d'argent.
Quand ça devient une question d'argent, et bien là, effectivement, ça se résout pas en un coup de cuillère. Il faut aussi savoir dans le tennis que depuis toujours, ton prize money, quand tu touches ton prize money, il y a un pourcentage qui est prélevé par l'ATP et la WTA qui constitue ta retraite. Et effectivement, dans les revendications qu'on a entendues là, et je l'ai peu entendu, il y a aussi la demande des joueurs que les tournois du Grand Chelem participent de manière plus intense sur la retraite des joueurs, parce qu'en fait à un certain âge, donc tu capitalises, tu choisis pas où tu places cet argent, ils te le prélèvent, ils te le placent, c'est aux États-Unis et à 50 ans tu peux récupérer cet argent comme une retraite.
À 50 ans?
Ouais, à partir de 50 ans. D'accord. Absolument.
Alors que la carrière d'un sportif s'arrête.
Nous, c'est à la fin de la carrière, nous.
Ah ouais, c'est vrai ça. Au football. Fin de la carrière aussi.
Chaque année, il y a un
vécu. Je sais pas,
tu touches un pactole en fonction de tes années de présence dans le sport.
C'est ça. Et donc, c'est ta cotisation à l'ATP, à la WTA où tu participes. Et donc, comme les grands chelems ne dépendent pas de l'ATP et de la WTA, mais de l'ITF, c'est en ça où les joueurs veulent peser. Et moi, je trouve que ces revendications sont justes. Après, je sais pas si les moyens ont été mis du bon côté. Ils pourraient faire des boycotts ailleurs. Hein.
Et Sarah, est-ce que toutes les joueurs et joueuses, ils ont conscience de ça? Est-ce qu'ils savent pourquoi le combat est fait?
Est-ce qu'ils connaissent bien leurs droits, en fait?
Non, t'as raison, parce que t'as pas le temps de penser à tout ça. Je veux dire, ton temps, il est sur le terrain, il est sur ta récupération, programmation.
Je vais te donner un exemple. Nous, dans le cyclisme, quand un jeune passe professionnel, quand il termine sa première année, il a un stage obligatoire de formation et d'information auprès du syndicat. Le syndicat des coureurs cyclistes en France organise chaque année pour les nouveaux qui arrivent dans le peloton une session d'une semaine où ils sont formés et où on les informe sur leurs droits et devoirs et sur toutes les situations qu'ils vont rencontrer dans le monde professionnel.
Nous, c'est du mentoring. T'as des anciens joueurs et d'anciennes joueuses qui se mettent à disposition. Mais c'est la démarche du joueur ou de la joueuse.
Nous, c'est obligatoire. Voilà. Le jeune, quand il arrive dans le peloton, il est obligé de...
Mais moi, je suis assez pour en fait qu'on oblige les gens à se former. Quand tu arrives dans les milieux pro, il faut savoir aussi quels sont tes droits et quels sont aussi tes devoirs. Mais c'est important d'en avoir conscience. Et je pense pas que ce soit le cas, et tout sport confondu, là, pour le coup. Je pense que si les organisations mettent pas ça en place, professionnelles... Après, il y a deux choses qui font bouger. Hein. C'est l'argent, hein, quand il y a des enjeux financiers majeurs, ou une prise de conscience collective sur un danger. Voilà.
Regarde le lockout en NBA, ils ont bien réussi à obtenir ce qu'ils voulaient. Hein.
La grève, voilà, ils avaient menacé de faire... Ils l'ont fait, d'ailleurs, et ils ont obtenu la chose. Et il s'est passé la même chose en NBA féminine, hein, parce qu'ils ont obtenu maintenant une revalorisation aussi de leur salaire. Fascinant. On n'avait jamais trop évoqué ça, de comprendre aussi, pour que nos auditeurs et auditrices, comment on marche le sport, parfois comme une entreprise, comme l'entreprise dans laquelle vous travaillez, vous tous, et les sportifs et sportives ont des droits, comme vous toutes et tous, et c'est vrai qu'on parle jamais de des cotisations de retraite, des droits, de ce qu'on peut avoir. Pierre, par exemple, se demande où est passée sa retraite. Hein. J'ai bien vu dans son regard.
Je me suis quand même interrogé quand vous avez dit nous c'est 50 ans et moi je dis je crois que c'est zéro. Quoi. En fait, on n'a pas quoi.
Bon ben voilà, il y a une lutte à mener. Allez, on referme la porte du vestiaire. Je te filerai un ticket resto.
Ouais, merci,
Pierre. T'inquiète, avec pas le manger tranquille, c'est pour moi. Dans un instant, on retourne à Roland Garros. C'est parti depuis 11h. Je vous rappelle toutes les balles sur la radio digitale 100% terre battue et aussi sur RMC. On va retrouver Anthony Reich, porte d'Auteuil, et on va parler de Yannick Sinner. Est-ce qu'il peut être sous pression, lui qui est archi favori? À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
Les grandes gueules du sport. On va retourner à Roland Garros dans un instant. Mais d'abord, je vais accueillir Alexis qui a été sélectionné au 32-16 pour le jeu. Salut Alexis.
Salut.
Alors, j'ai devant moi un tableau avec 26 maillots numérotés, le nom des joueurs français qui vont jouer à la Coupe du Monde. Derrière chacun d'eux, il y a un super cadeau, 10 000 euros ou un pack Coupe du Monde. Il faut que tu sélectionnes un numéro ou un nom pour savoir ce que tu peux remporter. Je t'écoute, qui tu choisis?
Allez, je vais choisir Rabiot.
Rabiot, numéro 14, on va aller voir. J'ouvre avec mon petit maillet. Qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Le pack Coupe du Monde, Alexis, ah, tu remportes génial. Un vidéoprojecteur Samsung, un maillot officiel de l'équipe de France, le ballon officiel de la Coupe du Monde et la boîte de Lego de la Coupe du Monde. Très chaud le Lego de la Coupe du Monde, hein, je te préviens, je pense que tu vas terminer à la fin de l'été, mais très stylé.
Je vais faire ça avec mes enfants.
Bah voilà, bah, ça va être un magnifique programme. Bravo Alexis et merci d'avoir participé.
Beaucoup, ouais.
Merci beaucoup et félicitations. Tiens, vous savez, vous pouvez, comme Alexis, eh bien, vous inscrire et remporter 10 000 euros ou le pack Coupe du Monde qu'il vient de remporter. Pour cela, envoyez liste au 732-16. Liste au 732-16. Vous avez 5 minutes. Bonne chance à tous.
T'es un peu le Spielberg de la radio, quoi. J'ai vu là des effets spéciaux.
Mais attends, on a vraiment un tableau avec toutes les joueurs.
Je vois.
Il y a un vrai atelier art plastique pour les jeux RMC, je te le dis direct. Il y a des moyens. Allez les amis, début de Roland Garros aujourd'hui. Est-ce que le titre peut échapper à Yannick Sinner?
RMC, les GG sur le buzzer.
Yannick Sinner qui décroche le titre. De revers, c'est fini. Troisième titre majeur pour Yannick Sinner. Revers lonely de Yannick Sinner qui décroche le titre. C'est du grand art, c'est chirurgical. C'était trop clinique, c'était trop fort, c'est Yannick Sinner.
Et oui, lonely, c'est-à-dire qu'il est un peu seul. Oh, le pauvre, un peu cher, Yannick. Il est pas bien, là. San Carlos Alcaraz, également forfait pour Wimbledon. Le Transalpin semble, il a une autoroute, là. Peut-être pour son premier Roland Garros, le seul grand chelem qui manque à son palmarès. À 25 ans, numéro 1 mondial, battu en demi-finale par Djokovic à l'Open d'Australie, quand même. Important de s'en rappeler. Et sur une impressionnante série en Masters 1000, il a gagné les 6 derniers tournois et enchaîné 32 victoires consécutives à Rome, Madrid, Monaco, Indian Wells, Miami, Paris, j'ai l'impression d'être le speaker de Roland Garros. Je m'enflamme un peu. Il est le favori des bookmakers à 1,30. Derrière lui, Zverev est à 13, Djoko 15. Italien entre en compétition demain face au Français Clément Tavure. Les GG, je vous pose la question. Sans Alcaraz et sans Arthur Fils aussi, est-ce que Yannick Sinner est sous pression? Marc Madiot?
Non.
Pascal Duprat?
Non.
Pierre Abadan?
Pas du tout.
Sarah Pitkowski?
Oui.
Oui. Est-ce que tu peux me faire un oui un peu plus important que ce?
Oui.
Le point est massif. On vous attend au 32-16 évidemment pour participer et sur WhatsApp au 06 12 424 424. Anthony Reich est de retour avec nous. Salut Anto.
Hello.
Est-ce que la pression peut toucher Sinner? Qu'est-ce qu'on dit porte d'Auteuil?
Oh bah, c'est très clair, hein, dans les allées de Roland Garros, le public, tous les observateurs sont unanimes. Yannick Sinner est l'ultra favori de ce tournoi 2026, porte d'Auteuil. C'est le dernier grand chelem d'ailleurs qui manque au palmarès de l'Italien numéro 1 mondial.
C'est un tournoi très spécial pour moi. Je m'y sens de mieux en mieux, année après année. L'an dernier, j'y étais presque. Tout le monde essaye de gagner, donc il faut être prêt.
L'année dernière, le joueur de 24 ans s'était incliné face à Carlos Alcaraz, vous vous en souvenez évidemment, dans une finale d'anthologie, après avoir eu plusieurs balles de match. Mais l'Espagnol, on le sait tous, est forfait cette année à cause de cette blessure au poignet. Toute la pression repose donc sur les épaules de Sinner, qui ne doit pas trembler. On a l'impression que seul Alexander Zverev ou un Novak Djokovic en grande forme pourrait peut-être perturber les plans de l'Italien. Le Serbe croit en ses chances.
L'absence de Carlos augmente encore ses chances à lui aussi, mais on est tous là pour essayer de gagner contre lui et de l'empêcher de gagner davantage de titres.
Yannick Sinner n'a pas perdu un seul match depuis début mars. Il est sur une série impressionnante en Masters 1000. Mais Ivan Ljubicic, lui responsable du haut niveau à la Fédé française de tennis, veut croire quand même au suspense dans ce tournoi.
Tu peux pas tout gagner. Même Djoko 2011, il a gagné tous les tournois avant Roland Garros. Il a pas gagné Roland Garros. C'est pas qui peut battre Yannick. Mais Yannick aussi arrive ici avec beaucoup de pression.
Oui, il y a beaucoup de pression, mais ça va commencer, on va dire peut-être. Piano pour Yannick Sinner qui débutera son tournoi mardi face au Français Clément Tabur, modeste 171e joueur mondial.
Merci Anthony, tu restes avec nous. On adore avoir la bande son dans Roland Garros. Hein. Derrière, on a discuté sur le court avec les joueurs. Après cela, on fait attention aux balles. Alors, est-ce que Sinner est sous pression? Tiens, Pascal, pourquoi tu dis non?
Parce qu'il a l'habitude, parce que je vois pas pourquoi, sous prétexte qu'Alcaraz ne serait pas là, il aurait tout d'un coup davantage de pression. Il est le favori, il est invaincu sur terre battue en 2026. Et puis j'ai l'impression que cette pression qu'on veut bien lui donner, il sait pas ce que c'est. En fait, c'est un joueur incroyable. Il est réglé de manière magistrale. Il récite son tennis à chaque fois. Alors bien sûr, quelquefois, il lui est arrivé de perdre, notamment dans cette finale d'anthologie l'année dernière contre Alcaraz. Mais là, franchement, c'est presque un penalty. Alors vous allez me dire, les penalties de temps en temps, ça se manque.
Bah oui. Voilà.
Bah oui.
Non mais
c'est un penalty. C'est un penalty sans gardien.
Sarah, voilà. Pourquoi toi tu penses qu'il est sous pression?
Parce que sous pression.
Pourquoi est-ce que ça n'existe pas les infaillibles?
Bah. Évidemment, ça n'existe pas. Et puis parce qu'il faut aussi comprendre que les conditions là de Roland Garros ne lui sont pas tout à fait favorables sur cette première semaine. Alors ça ne veut pas dire qu'il va tomber, mais c'est pas des conditions qu'il aime. On se souvient cette demi-finale Sinner Djokovic à l'Open d'Australie, ça s'est joué sous une chaleur absolument énorme. Il faisait plus de 40 degrés, il y avait un gros taux d'humidité au point qu'il y a eu des pauses médicales et qu'il y a eu la fermeture du toit. Que Sinner a beaucoup souffert physiquement, les crampes, les jambes raides, on l'a vu se glacer le corps. Donc il est pas à l'abri d'une défaillance oui. physique si les conditions ne lui conviennent pas. Oui, et on sait que les conditions.
La chaleur est peut-être sa kryptonite.
Exactement.
Durée.
Et ouais. Puis après, je vais vous redonner un autre exemple. Alors ça ne veut pas dire qu'il l'a pas fait, mais vous savez que Federer a été en chasse de Roland Garros pendant de nombreuses années et que la personne qui le bloquait était Nadal. Et ce Roland Garros, c'était en 2009 quand Rafael Nadal perd. À la surprise de tous en huitième de finale face à Robin Söderling, on dit mais il y a un boulevard pour Federer. Federer, il joue son huitième de finale face à un Allemand qui s'appelle Tomias. Mm-hmm. Et ben la pression, il l'a ressenti, il était mené 2-7-0.
Tout Federer qu'il est,
il était mené 2-7-0.
Et la marge qu'il pouvait avoir.
Et s'il faisait pas ce match, il aurait peut-être jamais gagné Roland Garros. Donc ce que je veux dire, c'est que ça existe. Il y a pas la chaleur.
Tu penses qu'il aura forcément un match? Il peut avoir un match difficile.
Il va avoir un match. Mais il y avait un précédent. Enfin, Federer, il avait échoué peut-être déjà plusieurs fois contre Nadal. Tu vois là, Sinner, il a perdu juste la finale d'anthologie.
Oui, mais avec des balles de match, la terre battue. Là, il joue bien. J'ai envie de dire que son match référence cette année, c'est à Monte Carlo quand il bat Alcaraz. Mm-hmm. Puisque après, de toute manière, il y a plus Alcaraz. Donc sur terre battue, il a encore des choses à se prouver. Il sait qu'il est le favori. Mais il sait très bien qu'on pense qu'il doit gagner parce qu'Alcaraz n'est pas là. Donc tout ça, il peut pas être totalement hermétique.
T'as pas l'impression qu'il s'en fout un peu de ce qu'on pense?
Alors, c'est quand même ce qu'il dégage, lui. Il travaille pour.
Toi, t'as du mal à y croire, quand même, à être totalement hermétique.
Mais totalement hermétique. Et puis, il peut y avoir un joueur méga en chaleur qui va le pousser dans ses retranchements pour peu qu'il fasse 40 à l'ombre. On sait pas. Je te le signe pas. Mais la pression, elle est forcément là.
Mais Pierre, tu disais, peut-être même le fait d'avoir eu des balles de match l'année dernière en finale. On parlait tout à l'heure, par exemple, de l'expérience des finales et tout. Il a un parcours qu'il connaît, qui le rend en plus de sa forme actuelle.
Oui, je pense que, évidemment, la question c'était est-ce que ça lui met plus de pression qu'Alcaraz soit pas là? Non, je pense qu'il y aurait eu Alcaraz, il aurait voulu gagner Roland de la même manière.
Oui.
Il se serait sans doute dit, ça va être plus dur, parce que battre Alcaraz, qui est un peu la référence sur Terre, c'est quand même le plus compliqué. Donc, évidemment, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'il ne gagnerait pas ce tournoi. Enfin, plein. on en voit quand même assez peu. Mais voilà, la chaleur, la méforme, une contre-performance, Joko. Un mec qui est en feu, Joko qui rejoue à son meilleur niveau. Mais globalement, il est largement favori et il sait gérer ce genre de pression. De, d'être attendu et de répondre à cette attente. Donc pour moi, c'est pour ça que.
Non, mais ça existe. En fait, là où tu veux en venir, et le mot n'a pas encore été dit depuis tout à l'heure, c'est le robot, quoi. Ça existe, les robots, les mecs imperméables à la pression.
Regarde, même un marathon de robots en Chine, ils se sont cassés la figure, les robots.
T'en as déjà croisé des robots dans ta carrière, Marc ?
On en croise forcément à un moment ou à un autre. Pogacar est un robot.
Tu penses que la pression n'a pas de prise sur lui ?
Mais moi, je pense que Sinner fait partie de ces individus qui utilisent tout ce qu'il y a autour d'eux pour renforcer leur influence sur le déroulé du tournoi. Et là,
tu veux dire, en contraire, ça l'alimente peut-être encore.
Ouais,
bah l'ange les galvanise.
C'est une machine. Souvenez-vous. Et il a appris de ses moments difficiles et de ses erreurs. La finale de l'an dernier, je suppose qu'il l'a encore à l'esprit. Mais il sait aussi que il était tout près de battre le meilleur des meilleurs sur ce terrain-là. Donc, il connaît sa marge, il connaît le niveau de ses adversaires, il connaît les faiblesses de la concurrence, ce qui fait que oui, il peut y avoir un incident de parcours, mais il a une telle marge de sécurité et s'il récite et il sait réciter ses leçons, s'il récite bien sa leçon, je vois pas comment il peut perdre.
Ça me fait penser à Manon Apiti, notre championne olympique d'escrime hier, qui nous disait le mental, avant tout la construction d'un mental, c'est d'être fiable. Et la fiabilité, on a l'impression qu'il l'a dans sa tête.
D'ailleurs, on en parlait avec Sarah tout à l'heure, c'est-à-dire que comme Coco Gauff, c'est des profils de joueurs qui travaillent beaucoup sur la préparation mentale maintenant et qui manifestent très peu d'émotions.
Oui.
Quand tu vois pendant
que
les matchs
que ça gagne ou que ça perde,
que ça gagne ou que ça perde, c'est transparent. Alors moi je trouve ça un peu chiant pour nous qui regardons le sport, mais pour eux, tu sens qu'ils sont dans une approche où ils prennent du recul pour pas être influencés par le genre de débat qu'on a là, et l'absence
et
de
puis,
certains.
Et puis les petites failles qu'on essaie de lui trouver, ne vous trompez pas, son entourage et lui-même ont dû y penser.
Oui, oui. il s'est rendu compte qu'en 5-7 il était pas en feu, quoi. Oui. Voilà. Anthony Reich, tu voulais rajouter un truc.
On lui a rien appris au mec.
Dans le sens de Marc et de Pierre, souvenez-vous quand il y a eu l'éclat de l'affaire pour le contrôle antidopage. Et bien derrière, il était au cœur de la tempête. Toute la presse mondiale à l'US Open qui a suivi le traquet, l'asséné de questions sur ce sujet, il a gagné l'US Open.
Oui.
Donc ça ne l'a pas perturbé plus que ça. Il a été seul contre tous. Moi, je pense que le principal facteur d'une faiblesse de Yannick Sinner, c'est la chaleur. C'est la chaleur. C'est Spizziri, où il y a la fameuse activation de la heat rule, cette règle de chaleur à l'Open d'Australie en janvier dernier,
qui lui a sauvé la vie. Ouais.
Et moi, je l'ai vu beaucoup de fois s'entraîner cette semaine. Il a tapé à la mi-journée jeudi. Je peux vous dire qu'au bout d'une heure, il s'est tiré.
Ah ouais, je croyais que tu allais nous dire. Eh ben, il
ne transpirait
pas, le mec.
En gros, tu l'as, la stat des matchs en 5-7, elle est déficitaire.
Oui, il y a toujours cette stat. Il n'a pas gagné un seul match sur 9 en 5-7. Quand ça a dépassé 3h53 de jeu. Donc si un gars qui arrive à l'emmener dans cette altitude là,
il faut qu'il les martyrise quoi en 3-7.
Ah bah, exactement.
C'est ça. Exactement. Bah, oui.
Tiens, sur WhatsApp il y a beaucoup qui nous parlent de la chaleur aussi comme le seul espoir entre guillemets pour voir Sinner vaciller ou certains comme Abba qui nous disent je vois Joko gagner. Voilà, il y en a beaucoup qui voient Joko comme la seule possibilité peut-être de faire vaciller l'Italien. Et Fraise sur WhatsApp, Pierre qui nous dit mais souviens-toi Sampras aussi il souriait jamais. C'était un
sport. Moi, je n'ai pas les premiers, mais bon. C'est quand même chiant quand les mecs expriment rien, ou les filles, hein, d'ailleurs.
Yes, j'ai gagné Roland Garros. Voilà. Super.
quand ça s'emballe un peu, quoi.
Allez, Sinner sous pression ou pas, on va le découvrir très vite, puisque vous allez suivre toute la quinzaine sur RMC avec Anthony Reich, avec Eric Salio, avec Sarah Pitkowski, avec Florence Serra, avec Julien Beneteau, toute la Dream Team Tennis et sur le pont et la radio digitale également 100% terre battue qui est lancée depuis 11h ce matin. Pour ne rater aucun moment. Allez, les jeux du sport arrivent dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Georges Quirino.
C'est parti à Roland Garros et ça va partir également sur le ring des grandes gueules du sport, les jeux du sport.
RMC, les jeux du sport.
Alors Pierre, c'est ta première, hein, donc je vais rappeler d'abord le principe, c'est du 2 contre 2. C'est du 2 contre 2.
Du coup, j'ai la pression.
Ah, du coup, je sais pas.
Comme Sinner, quoi.
Ah, je sais pas, c'est
la même.
C'est ta première finale, quoi. Vous allez défendre un auditeur. Donc, d'abord, je vais répartir les équipes. Pierre Rabadan avec Sarah Pitkowski et Marc Madio et Pascal Duprat. Ah, les deux, là. Je vois bien
ensemble. Tu t'occupes du rugby, hein, Pierre.
Ouais. Alors, Je rappelle, également qu'il y a une question impossible qui est activable par un seul joueur par émission. C'est-à-dire que si tu l'actives, tu es le seul à jouer.
Et c'est sur ton sport.
Sur ton sport, si tu as une bonne réponse, c'est 3 points. En revanche, si tu te plantes, c'est 1 point en moins.
D'accord.
Donc il y a un côté, tu vois, difficile. Important de l'avoir en tête. J'accueille les auditeurs, Yann et Julien. Salut messieurs.
Bonjour les GG.
Yann, qui est pâtissier. Tiens, bah, tu vas nous faire un truc à manger. Non, Yann, je te laisse choisir ton équipe avec Sarah Pitkowski et Pierre Rabadan ou Marc Madio et Pascal Duprat.
Ah bah avec les meilleurs, avec Marc et Pascal.
Ça baffe dans la tête direct, Pierre, sur ta confiance.
Désolé pour toi.
Julien, du coup, tu es avec Sarah et Pierre. Je rappelle, aujourd'hui, les amis, vous pouvez remporter un des séjours dans les 400 campings Homer. Ça, c'est pour les auditeurs. Allez, c'est parti, les amis. Attention, important d'écouter également le type de question. Là, c'est une question à une seule réponse. Tu n'as le droit de donner qu'une réponse, pas plusieurs.
Mais une moi ou une par équipe?
Une par équipe. Ah. Non, une toi. Une toi. Pep Guardiola quitte Manchester City ce dimanche après 10 ans sur le banc du club. Il a gagné combien de titres en Première Ligue?
2.
Non. Éliminé.
4.
Éliminé.
Ben on va mettre 3. Hein.
Éliminé, Pascal.
6.
Le mec il attend tout, quel malin. Ah le margoulin.
J'ai hésité en plus qu'après.
1-0 pour l'équipe Madio Duprat. Voilà. Tiens, bon, on va rester sur les entraîneurs. Pep Guardiola est le deuxième entraîneur le plus titré de l'histoire du foot. Question à plusieurs réponses. Qui est le premier entraîneur le plus titré de l'histoire du foot?
Ancelotti.
Ancelotti.
Non. Ferguson.
Yes.
48.
Marc, on est bien.
C'est trop fort.
2-0.
Merci.
Question auditeur. C'est pour vous, Yann et Julien. Yann qui est avec l'équipe Madio Duprat, Julien avec l'équipe Pitkowski-Rabadan. Vous donnez votre réponse et ensuite votre prénom. Comme ça, je peux bien déterminer qui a donné la réponse. OK pour vous?
C'est bon.
Yann et Julien, quel tennisman français prendra sa retraite à l'issue de Roland Garros?
Yann Gaël, mon fils.
3-0 pour l'équipe Madrid.
Attention.
Question à une seule réponse, les GG. On reste sur Gaël, mon fils. Sur combien de défaites reste-t-il face à Novak Djokovic?
9.
9, ouais, je vois.
Non.
8. Pas 15.
Non. Pascal?
12.
Eh bien, personne n'a la bonne réponse, c'était 20 défaites.
Ah oui. 20.
C'est moi qui suis le plus proche, là, on pourra avoir.
Non, Pierre.
Question à une seule réponse, attention, c'est de la rapidité. Qui est la dernière française à avoir remporté Roland Garros?
Marie-Pierre.
Voilà. 3. Le point est pour l'équipe Pitkowski.
Non, mais c'est donné, on en a parlé dans l'émission.
Ouais, on l'a donné.
Et alors? Mais si je veux, Pascal, je peux dire quel est le prénom? Parce que je
mais là, je trouve qu'il y a quand même une question sur le tennis.
Ah ouais, d'accord.
Je veux bien que ça arrête.
Vous m'avez écouté, Marc. J'ai eu deux questions sur le foot au départ.
Quand même.
Il est malin, il gagne du temps, Marco. On le connaît maintenant. Question auditeur, c'est pour vous, Yann et Julien.
Allez, Yann.
Yann et Julien, quel Français a été élu, enfin même pas élu, et désigné meilleur buteur de la Liga, le championnat espagnol?
Mbappé.
Julien. Mbappé simultané, me dit notre producteur Maxima Bolin. Alors attention, maintenant on va rentrer dans un autre.
Il y a une organisation là pour me faire tomber. Hein,
question. Maintenant c'est une question à élimination pour 2 points. Je rappelle le principe, vous allez répondre à tour de rôle. À tour de rôle parce que c'est une liste de réponses.
Okay.
Une erreur et vous êtes éliminé. Une erreur, vous êtes éliminé par ce petit bruit du pistolet. Beau pistolet. Citez-moi tous les Français ayant atteint au moins les huitièmes de finale de Roland-Garros depuis la victoire de Yannick Noah en 1983. Pierre, on commence par toi.
Gasquet.
Richard Gasquet, c'est bon. Marc Mathieu.
Noah.
Yannick Noah, c'est bon. Sarah Pitkowski.
Sébastien Grosjean.
Sébastien Grosjean, c'est bon. Pascal Duprat.
Lecomte.
Henri Lecomte, c'est évidemment bon.
C'est les huitièmes, hein, c'est pas les joueuses.
Les joueurs français, les joueurs, les garçons.
Les joueurs et joueuses ou
non,
que
les, que les joueurs masculins.
Ah, que
français,
les masculins.
Hommes, ayant atteint au moins les huitièmes de finale de Roland Garros depuis Noah en 83.
Tsonga.
Joe Elfried Tsonga, c'est bon.
Pioline.
Cédric Pioline, c'est bon. Sarah.
Bah, Gaël, mon fils.
Gaël, mon fils, c'est bon. J'ai l'impression que c'est celui que tu avais, Pascal.
Simon.
C'est Gilles Simon?
Ah ouais.
Ça passe, bien sûr. Pierre.
Santoro.
Fabrice Santoro, c'est bon. Ouais. Marc Madio.
Là, je sèche. Gasquet, on l'a dit, non?
Gasquet, ouais. On l'a dit. Ah. Attention, t'es au bord du précipice. Là, j'accepte que tu restes. 3, 2, 1. Éliminé. Sarah.
Arnaud Butch.
Oh, ouais. Oh, bravo.
C'est bon, Arnaud Butch. Pascal. Bravo, quoi. Il est connu, Arnaud Butch.
Tonga, on l'a dit.
Ben oui, on l'a dit. Non, mais arrêtez. Allez, terminé. Éliminé. Pierre.
Forger.
Guy Forger. C'est bon. Et ça sécurise la victoire de l'équipe Rabadan Bifoski. Arnaud Clément, c'était bon. Il y avait Julien Beneteau.
Oui, Julien, exact.
2 points, donc vous allez dire que
Michael Laudra aussi.
Vous revenez à égalité, 3 partout. Attention, concentré. Ouais. Question.
Tu peux leur une nouvelle question tennis pour Sarah?
Non, regarde.
Bah, j'ai répondu aussi, Pascal.
Question foot.
Question à une seule réponse. Est-ce que vous pouvez me citer un pays en dehors de l'Italie qui a été traversé par le Giro cette année?
C'est Hongrie.
La Hongrie.
Non.
Non, la Roumanie.
Lituanie.
Mais Bulgarie.
Non. Bulgarie, ça.
C'est la Bulgarie, c'est la Bulgarie.
Bien, ça va. 4-3, attention. Question à plusieurs réponses. C'est à Kikadi, comme dans le Super Moscato Show. Qui a dit ceci? Moi, je ne veux pas finir en vieux crouton sur le banc. Je ne veux pas
Enrique.
Ça. Luis Enrique, 4 partout.
Bravo, Marc. J'aime bien cette autorité, là. Retrouvé.
Pour moi, t'as plutôt dit Enrique, mais c'est dans le fond. Question, auditeur, 4 partout, c'est chaud. Yann et Julien, c'est pour vous. Vous donnez votre réponse ensuite, votre prénom. En Formule 1, qui est leader du championnat des pilotes?
Antonelli Julien.
Attends.
C'est moi en premier.
Yann l'a dit en premier.
Yann, au premier. Deux jours avant, Yann.
Max me dit que Yann l'a dit en premier. Donc ça fait 5-4.
Bah oui.
Il reste 30 secondes.
Ah oui, quand même. C'est fini, non?
Question à plusieurs réponses. Qui portera le numéro 20 de l'équipe de France à la Coupe du Monde? Pierre, regarde le tableau derrière moi. Et non, ça a été ouvert déjà.
Plusieurs réponses?
Ouais. Plusieurs réponses.
Comment il peut y avoir plusieurs réponses?
Au lycée.
Vous pouvez donner n'importe quelle. Okay. Non, au lycée, Kanté, c'est pas bon.
Dembélé,
c'est pas bon.
Zahir Emery.
Désiré Doué.
La victoire est pour l'équipe Madio Duprat. Félicitations. C'est Yann qui remporte ces Jeux du Sport. Bravo, Yann.
Merci à vous.
Jouez sur RMC avec Homer. Des campings 4 et 5 étoiles en France et en Europe. Homer, 400 campings, 400 raisons de revenir.
Et pourtant Pierre avait la bonne tactique, il regardait le tableau des 26 joueurs qui est derrière moi, mais malheureusement le numéro 20 de Désiré Doué avait déjà été ouvert par un de nos auditeurs gagnant. Tiens, je te pose la dernière question, Pierre. Qui a été élu meilleur joueur du tournoi du Champions Cup?
Louis Bielbiaré. Allez, un point.
C'est facile.
Tu vois, voilà, on avait posé une question rugby.
Merci. À la fin.
Allez. Ouais. Bienvenue, merci pour ta première.
Mais je sens, Pierre, que, je sens que le baptême. Vous avez organisé ma défaite.
Tu vois, de partir en étant mauvais joueur, c'est ça.
Mais c'est la base d'être mauvais joueur, si tu veux.
En même temps, il a la place de Christophe Cessieux. Donc, mauvais joueur,
là,
tu t'en tiens.
Il faut que tu t'entraînes un max. Alors que Marc a le sourire carnassier du vainqueur. J'ai gagné. Et alors, et quoi? Bravo, Marc. Bravo, Pascal. Merci, Sarah. On se retrouve ce soir dans Bartoli Time. Sarah, mais restez avec nous sur RMC tout de suite. C'est Paris RMC.